D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisqu'on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Dandy. Si on regarde un plan, on se rend compte que Venise ressemble à deux têtes de serpent qui s'entre-dévorent. Je parle des cestiers puisque Venise n'est pas divisée en arrondissement ou en quartier mais en cestiers, de Cannareggio et San Marco d'une part, de San Polo et du Dorso d'Our d'autre part. On dirait que l'une et l'autre partie se jalousent leur palais, leur beauté délabrée et pourtant éclatante. On a beau connaître Venise, la magnificence et la gaieté extérieure de ses palais étonnent à chaque fois. La meilleure rime à Venise, c'est surprise. Et donc, ces deux têtes de serpent se jalousent, et si elles ne réussissent pas à se dévorer, elles persiflent. On a la langue pour le moins bifide à Venise, et ce n'est sans doute pas pour rien que les plus grands compositeurs de l'opéra baroque, qui est l'opéra de l'hystérie, sont vénitiens comme Vivaldi ou Caldara. On a toujours un peu l'impression que leur chanteuse, aussi sainte vierge ou déesse antique soit-elle, crient comme des femmes de doge qui entreraient dans un salon et trépigneraient de voir une autre femme porter la même robe. Ce qui n'est jamais une surprise, hélas, dans ces quartiers-là de Venise, ce sont les touristes. Ils sont partout, plus nombreux que les pigeons, autre sorte de pigeons, pigeons à terre de la place Saint-Marc avec la même démarche pato-dégloutonne. On s'accommode de cette pollution et on a peut-être tort. Le tourisme est à Venise et à certains pays d'Europe ce que le pétrole est à l'Arabie Saoudite et à l'Algérie. Un piège à paresse et à abrutissement. Quand on a du tourisme, quand on a du pétrole, l'argent arrive sans qu'on ait rien à inventer. Plus de compositeurs d'opéra à Venise, seulement des acheteurs d'affreux masques en cuir. Sauf que, en face de ces cestiers principaux, au sud, leur faisant face, il y a une longue île en forme d'anguille et qui s'appelle la Giudecca. Les touristes n'y vont pas ou très peu. Il y a moins d'hôtels. Il y a des Vénitiens et des Vénitiens en quelque sorte normaux. Ils ne sont plus que 60 000, les Vénitiens. Et leurs ouvriers semblent être à la Giudecca, où on trouve des logements sociaux, et même, le croira-t-on possible, une piscine municipale, et même, au romanesque, une prison pour femmes. Drôle d'île qui contredit le cliché de Venise. Quel est le secret professionnel de la Giudecca à l'occasion de la publication dans la collection Bouquin chez Robert Laffont de Venise, Histoire, Promenade, Anthologie et Dictionnaire? Je reçois pour en parler Francesco Rapazzini, que je prononce à la française, auteur dans cet ouvrage collectif du chapitre sur la Giudecca. Francesco Rapazzini, pour commencer, d'où vient ce nom de Giudecca? Son origine, je crois, est assez mystérieuse.
Oui, alors il y a plusieurs idées, l'une contredit l'autre. Alors Giudecca, on dit, ça vient de Giudeo, donc juif, ou sinon aussi de Giudicato. Ça veut dire que, et c'est plutôt ça, aujourd'hui les historiens disent que c'est plutôt ces deuxièmes idées, et c'est que c'était les nobles et les riches qui étaient passés un jugement et qui avaient été jugés et qui purgeaient leur peine à la Giudecca. Pourquoi ce n'était pas les Juifs? Parce que la Giudecca était une île, et l'est toujours, mais était une île pleine de jardins. C'est une île très belle. Et alors, figurez-vous si aux Juifs, au 15e siècle et au 16e siècle, ont laissé une merveille, une telle merveille. Donc, c'est plutôt les riches qui allaient là-bas, et c'était un peu aux arrêts domiciliaires là-bas.
Vous dites dans votre chapitre qu'on appelait, dans ces temps anciens, l'île la Spina Longa. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, alors la Spina Longa, c'est un peu l'arête du poisson. Et alors, dans votre introduction, vous disiez que ces deux serpents qui se toisent, nous Vénitiens, nous disons que c'est un poisson. Et donc, la Giudecca est l'arête du poisson.
Et c'est composé en réalité de 8 îles différentes, c'est ça?
Exactement. Alors, on dit que c'est une île, mais c'est 8 îles différentes, reliées entre elles par des ponts comme Venise. C'est tout à fait exactement comme Venise et la Giudecca, sauf que on n'a pas cette plaie qui sont les touristes.
Donc vous êtes un enfant de la Giudecca et vous dites dans ce chapitre que vous viviez Fondamenta del Ponte Longo. Et alors je voudrais, pour commencer, que vous m'expliquiez une des choses qui est pour moi les plus mystérieuses à Venise. que ce soit la Giudecca ou ailleurs, ce sont les appellations, les noms de lieux, ces fondamenta, ces calle, ces campo, ces campazzo, ces, comme à la Giudecca d'ailleurs, où il y a un campazzo San Cosmo. D'où viennent ces, ou Rio Terra, qu'est-ce que c'est que ces noms étranges, alors que dans toute l'Italie, c'est Via et basta, non?
Alors, c'est un peu des rues, des ruelles, des avenues. Mais à Venise, il faut savoir, il y a l'eau. Alors, la Fondamenta, c'est une rue qui borde un canal. Donc, s'il y a l'eau, c'est une Fondamenta. Si c'est une calle, il n'y a pas d'eau.
C'est pas un nom italien, calle.
Non, c'est vénitien. Et Fondamenta, c'est Fondamenta en italien, ce sont les fondements des maisons.
Les fondations.
Les fondations, pardon, oui. Ce sont les fondations et c'est pas Fondamenta, c'est vénitien aussi. Et Rio Terra, c'est un ex-canal qui a été enterré, donc qui est devenu une cale, donc une rue, et avant, il y avait de l'eau qui passait.
Est-ce que c'est vrai que ça date du temps de l'occupation autrichienne, où les Autrichiens ont enterré des passages des canaux pour permettre à leurs chevaux de passer?
C'est pas que les Autrichiens ont passé au marché à cheval, on allait à cheval à Venise depuis le temps de sa construction.
Donc ce fondament où vous avez grandi, est donc le long du canal, n'est-ce
oui,
pas? Du canal de la Giudecca qui sépare les intérêts de...
La fondamenta del Ponte Longo, le Ponte Longo et les rios del Ponte Longo donnent, oui, entre le canal de la Giudecca et la lagune.
Et la lagune. Il y a un rapport avec Giorgio Baffo.
Oui.
Alors dites-nous, rappelez-nous, parce que peut-être que tout le monde vous le traitait, peut-être un peu exagérément, de poète pornographe. Est-ce qu'il vraiment il était pornographe?
Oui. Donc lui, ses poèmes, ils tournaient tous autour de l'acte sexuel.
Il date de quand?
Il date du 18e siècle. Et donc, il était un monsieur qui s'amusait beaucoup dans sa vie, qui s'est beaucoup, beaucoup amusé. Et comme tout riche vénitien, il était un monsieur assez riche. Ils avaient leur maison, donc où ils habitaient, et le casino. Et le casino, c'était où ils allaient jouer, où ils allaient faire de la musique, ou écouter plutôt de la musique, et où ils allaient aussi rencontrer des jolies jeunes femmes qui à la cuisse légère. Et donc, ce casino de Baffo était à la Giudecca, il était à la Fondamenta des Ponti Longue. Il avait été construit en 1730, donc l'année vécue par Baffo à l'époque, et c'était là où j'ai grandi avec ma famille.
Dans cette même maison?
Dans cette même maison.
Baffo, lui, était vénitien?
Il était vénitien, c'était Giorgio Baffo, oui.
Je vais vous laisser me traduire, car je n'oserais pas une phrase de lui qui dit qu'il parle de bonne cose deliciosissime, cioè de bocche, tette, culi, cazzi e mone.
C'est qu'il va parler, c'est dans l'introduction justement de son recueil de poèmes, où il dit qu'il va parler des bonnes choses, des belles choses, des choses délicieuses, c'est-à-dire des bouches, des tétons, de cul, de bites et de chattes.
Eh bien, en voilà, Vénitien. Alors, je voudrais, Francesco Rapadini, que nous restions d'abord un peu à l'extérieur de la Giudecca, comme nous avons commencé, et que nous la regardions du côté de Venise, si je puis dire, du côté des Zattere, regardons la façade de la Giudecca. Ce qu'il y a, je crois, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien l'île, le plus frappant et frappant de beauté, ce sont deux églises qui, je crois, sont de Palladio. C'est l'église du Rédempteur et les Zittelle. Est-ce que vous pouvez me parler de ces...
De l'église Redentore et de l'Zitelle. Ce sont des églises en marbre blanc, elles sont très grandes, ont des façades assez sévères, parce que justement Palladio voulait donner toujours une idée de sévérité dans ses œuvres, mais c'était aussi de majestueux. La Giudecca est une île, à part les Molino Stucchi, qui est assez... les maisons sont toutes assez basses, et puis, boum, on voit cette énorme église qui est celle du Rédempteur.
Alors pourquoi elle s'appelle du Rédempteur?
Voilà, c'est du Rédempteur parce que Venise avait été sévie par la peste en 1570-76 plutôt, et les Sénats à l'époque ne savaient plus vraiment plus à quel saint se vouer. Et donc ils se sont dit, on fait un vœu, on dit au bon Dieu, ou plutôt au Christ Rédempteur, que si la peste, si la maladie sera battue, on va construire une église à son nom. Parmi les victimes, il y avait aussi les vieux Titiens. Le peintre Titien était mort pendant la peste de Venise de ces années-là. Et ben la peste est partie, et donc ils ont commencé à construire cette église qui a été la première. Pierre a été posée le 3 mai 1577. Et donc, c'est une église qui est assez, comme je disais, austère, parce que Palladio voulait vraiment donner l'idée d'un lieu de recueil et pas un lieu de faste. C'était pas dans l'esprit de magnifier la richesse de Christ ou de l'église, mais c'était plutôt pour faire en sorte que les gens y aller pour se recueillir. Et l'église est en croix latine, donc assez classique aussi comme construction. Et c'est fait, donc c'était construit par ce génie qui était ce Andrea Palladio. C'était le génie de l'architecture de la Renaissance et qui a influencé 3 siècles d'architecture européenne, on peut dire.
Est-ce qu'il est vrai que Palladio a construit sur la Giudecca et aussi à San Giorgio à côté, puisque c'est lui qui a fait Saint Georges le Majeur. Est-ce que c'est vrai qu'il a construit là parce que le Sénat de Venise ne lui donnait l'autorisation de construire qu'en dehors du centre de Venise parce qu'il n'était pas vénitien, ou c'est une légende?
C'est assez une légende, mais c'est vrai que bon, l'église du Rédempteur avait été choisi, le lieu avait été choisi dans le vœu, donc c'était pas parce que Palladio n'était pas de Venise. Et puis il y avait à côté, donc il y a eu les 2 autres opportunités pour faire les Zitelle et pour faire San Giorgio Maggiore, donc c'est le hasard.
On considère que San Giorgio fait partie de la Giudecca? Non.
Non, du tout.
Et alors, parlez-moi de l'autre église qui est donc sur cette façade, si je puis dire, de la Giudecca, qui est les Zitelle.
Oui, alors les Zitelle, qu'est-ce que ça veut dire en italien? Les Zitelle, ce sont les vieilles filles qui ne sont pas mariées. En réalité, c'était ce nom a été donné parce que les bonnes sœurs qui accueillaient là-bas les filles perdues, donc les putains, voulait les rendre des vieilles filles de vertu. Donc voilà pourquoi les Zitelle, en réalité, c'est Santa Maria della Presentazione, donc de Sainte Marie de la Présentation. Et cette église a été achevée en 1586. Elle est une petite rédempteur. Donc on voit tout à fait la patte du Palladio. Et c'est une église qui est très jolie, mignonne, comme on peut dire. Elle est beaucoup plus petite et elle est en plein, en carré parfait. Elle a un jardin derrière avec un cloître qui aujourd'hui est devenu, fait partie d'un hôtel très chic. Mais qui dans l'ensemble, assez joli. C'est un ensemble assez joli.
Alors pour finir, l'aspect de façade de la Giudecca, à chaque bout, je voudrais que vous me racontiez ça, Francesco Rapazzini, à chaque bout de l'île, il y a un hôtel de luxe, l'un est le Cipriani et l'autre est le Molino Stucchi. Alors le Molino Stucchi, ça n'a pas toujours été un palace, j'aimerais que vous me racontiez, d'ailleurs que vous me décriviez un peu ce que c'est cette énorme bâtisse
en briques. Oui, c'est une énorme bâtisse néo-gothique en briques et qui était, ça s'appelle Molino Stucchi, et c'était un vrai moulin. Là-bas, on travaillait la farine. Et à la bonne époque, à la belle époque, et c'est une belle époque aussi de temps, parce que le moulin a 120 ans, un peu plus, il y avait 1500 personnes qui y travaillaient. Donc ça donnait énormément de travail et avait donné du travail à tous les Giudecchini. Et le monsieur qui l'avait
fondé,
mais c'était de la famille Stucchi, donc s'appelle Stucchi parce que c'était un Giovanni Stucchi. Et l'architecte, c'est Ernst Wohlekopf, donc c'était un Allemand. Et c'est c'est énorme. Ouais. C'est la plus grande construction de Venise. Et aujourd'hui, oui, c'est devenu un hôtel Hilton.
Il y a eu un incendie il y a quelques années que j'ai vu d'ailleurs, oui. On a beaucoup dit que c'était un incendie un peu criminel, mais on dit souvent ça en Italie.
Je ne vais pas le dire parce que sinon après il y a les flics dehors qui m'attendent. Mais c'est vrai que il y a eu tellement de projets sur ce bâtiment. À un certain moment, la mairie avait décidé d'en faire des logements sociaux, plus un cinéma, des salles d'exposition. C'était assez beau. C'était pour rendre, restituer aux Vénitiens un endroit qui a été pendant des années désaffecté. Et au moment où cela devait partir, boum, il y a eu l'incendie. Donc oui, on peut penser que c'est un peu douteux. Et après, c'est la famille Hilton qui était arrivée et ils ont acheté ces lieux. Et à l'intérieur, c'est moche comme tous les Hilton du monde entier, car identique à tous les autres Hilton du monde entier. Mais c'est la philosophie des Hilton, c'est pour ne pas dépayser leur chère clientèle et donc afin qu'elles retrouvent les mêmes couleurs, les mêmes chambres à New York, à Venise, à Paris, à n'importe où.
Est-ce que vous diriez, Francesco Rapazzini, que la Giudecca sent bourgeoise? Parce qu'il y a, voilà, il y a le Molino Stucchi qui a ouvert, il y a encore un autre hôtel de luxe qui a ouvert sur l'île, il y a un Harris Bar qui, il y a quelques années, a ouvert aussi sur le canal de la Giudecca. Est-ce que vous trouvez que votre île sent bourgeoise?
Moins que Venise même, mais un peu oui. Il y a eu Elton John qui était arrivé il y a pas mal d'années. Je ne sais pas s'il est bourgeois ou pas, mais c'est vrai que il y a un peu cela. Mais de l'autre côté, elle reste encore très vraie.
Nous allons maintenant entendre un air d'opéra par un des plus glorieux fils de Venise dont je mentionnais le nom tout à l'heure dans mon introduction. C'est le Non Figlia della Vittoria d'Antonio Vivaldi et c'est extrait de son opéra Ercole sul Termodonte.
Non Figlia della Vittoria.
Francesco Rapazzini, dans la première partie de l'émission, nous avons en quelque sorte regardé la façade de votre île, la Giudecca. Je voudrais maintenant que nous entrions dans l'île. Vous dites dans Venise, chez Bouquin, que Le Corbusier l'a qualifiée d'île parfaite, et en particulier à cause de ses maisons basses.
Oui, parce que les maisons de la Giudecca font un maximum 2 étages, presque toutes. Il y en a quelques-unes qui arrivent au 3e étage, mais c'est très rare. Et c'est très uniforme. C'est une partie de la ville de Venise qui est restée préservée pendant très longtemps. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs interventions de restructuration de quartiers entiers ou de bon, si on dit que la Giudecca est un quartier, donc de parties de la Giudecca qui sont des restructurations vraiment heureuses, il faut dire. C'est fini les années 70 et 80 où on détruisait et on construisait des horreurs, de monstres écologiques. Et aujourd'hui, en revanche, la Giudecca a été restructurée dans plusieurs secteurs et d'une façon incroyable, vraiment incroyable.
J'ai oublié de vous demander si on sait à peu près le nombre d'habitants de la Judée, parce que Venise ensemble fait à peu près 60 000 habitants. Est-ce que...
On dit que nous sommes 4 500.
Oui, donc c'est vraiment petit. Il y a, je le disais, une partie ouvrière, enfin vers Sacafisola, qui est le dernier arrêt du Vaporetto sur l'île. Est-ce que ça existe toujours, avec des logements assez modestes, d'ailleurs, qui étonneraient des touristes?
Oui, Sacafisola était et est toujours le quartier populaire de même de Venise. Ce sont des maisons construites dans les années, surtout années 50, 60, avec l'architecture de l'époque. Donc, pas du tout respectueuse de la ville et qui aujourd'hui deviennent intéressantes parce que justement reflètent une époque. Mais elles sont pas belles. Évidemment, elles sont pas belles.
C'est des petits immeubles, on peut dire, comme ça, plutôt que des maisons. Hein.
Oui, ce sont des petits immeubles.
Des petits immeubles. Donc, en tout cas, il y a encore des quelques ouvriers à cet endroit. Il y a des pêcheurs, j'imagine, puisque Venise est une ville de pêcheurs,
fait,
en particulier de Vangolais. Vous avez parlé de l'auberge de jeunesse, et il y a aussi cette fameuse prison.
Oui, la prison des femmes, la prison féminine, qui marche toujours, qui est toujours, qui est toujours là, et qui accueille des criminels. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces criminels ne passent pas la journée à regarder parmi les barreaux de fenêtres, mais elles travaillent. Alors il y a un très beau jardin de la prison et qui est devenu un verger assez important. Et elles cultivent des légumes qui sont vendus dans des hôtels de Venise. Et elles font aussi des crèmes. Et des crèmes, donc de la cosmétique, et aussi elle travaille de la maroquinerie.
Alors, il y a aussi l'histoire d'une maison à Venise où ont logé des gens un peu extravagants, dont un neveu du roi Louis-Philippe, est-ce que vous pouvez me raconter un peu cette histoire de cette maison qui est peut-être une des plus étonnantes de la Giudecca?
La Casa de Leone, la Casa de Leone. Alors, la Casa Leone est une vieille maison qui ne regarde pas sur Venise, elle est derrière. Donc, parce que la Giudecca a un côté, donc, comme on venait de dire, de façade, et un côté plus sauvage.
Vers
la lagune. Et donc, la Casa del Leone regarde la lagune, elle a un petit jardin. Et donc, au début du XXe siècle, il y a cette histoire assez marrante. Il y avait un peintre anglais, une peintre femme, Mabel Holland, qui allait de jardin en jardin pour peindre les jardins privés. Et donc, elle frappa à la porte de ce jardin et l'habitant lui ferma la porte au nez et en disant que non, il ne voulait pas du tout être dérangé par elle. Alors elle s'est informée, elle a su que ce monsieur n'était pas les propriétaires mais était les locataires, est allé voir le propriétaire, a acheté la propriété et a foutu dehors le goujat qui ne lui avait pas permis de peindre. Donc, elle s'est installée avec son amie, I.E., c'est une femme à femme, et elle y a vécu jusqu'en 1931, quand son amie est morte à l'improviste. Et donc, elle a vendu cette maison à un Américain qui, lui aussi, était un homosexuel et qui y vécut un certain moment, pas longtemps, parce que lui aussi avait son ami qui était décédé. Et donc, il l'a revendu à un autre homosexuel, donc à Monseigneur, à Ferdinand d'Orléans-Bourbon, qui y aménagea avec son compagnon et leur meute de chiens. Et puis Vasconcello, c'était le nom de son ami, il donna, les deux donnèrent des fêtes où tout l'intelligentsia homosexuelle internationale s'y retrouvait, et il y avait aussi la marquise Casati, il y avait les danseurs, il y avait Serge Liffard, il y avait plein de beaux mondes de l'époque. Et puis hélas, c'est une maison qui porte malheur aux compagnons de propriétaires. Vasconcelos mourut, et là elle fut rachetée en 1937 ou 8 par monsieur le comte Volpi di Misurata, qui était l'inventeur, disons, de la mostra du cinéma de Venise. Il avait inventé en 32. Et donc, depuis, elle est restée à la famille Avaux, puis elle appartient à la famille Avaux, et c'est là où on tient des grandes fêtes pendant la Mostra, et donc on voit débarquer les grands stars, et autrefois, Ava Gardner, Hitchcock, et Marlene Dietrich.
C'est ainsi que le palais de la fanfare est devenu la maison du cinéma. Il faut dire que d'ailleurs, Volpi avait été un très, très zélé ouvrier du fascisme, car la Mostra de Venise a été faite pour la gloire de l'Italie fasciste, il faut le rappeler. Oui. Et je crois qu'il y a eu d'ailleurs sur la Giudecca des studios de cinéma où ont été tournées en particulier des scènes d'un très beau film vénitien, si je puis dire, quoiqu'il ait été réalisé par un Milanais, qui est le Senso de Visconti, et, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Et je voulais revenir une seconde simplement à la Caleone, parce qu'il y a une histoire qui intéresse les Français. C'était que quand Mitterrand venait à Venise, il logeait chez Monsieur Volpi. Et à un certain moment, il était question de racheter par Mitterrand de la maison. Volpi était plus ou moins d'accord de lui céder, mais la mairie de Venise n'était pas d'accord avec les travaux que Mitterrand voulait entamer pour sa sécurité personnelle et pour son confort. Et donc finalement, Mitterrand ne l'a pas acheté.
Alors, Francesco Rapazzini, à Venise, il y a la Mostra, vous venez de le dire, c'est-à-dire le Festival international de cinéma, mais il y a aussi i mostri, c'est-à-dire les monstres, ces affreux paquebots qui, jusqu'à tout récemment, traversaient en particulier le canal de la Giudecca. Dites-moi en quelques mots de quoi...
C'est effrayant. Ce sont des villes sur eau. Alors, Venise est aussi une ville sur eau, mais c'est pas effrayant. Depuis la maison de ma mère, on voit passer par les fenêtres, on voit passer ces villes. C'est vraiment effrayant parce que on pense s'il y a une erreur de manœuvre, si il y a n'importe quel problème, ce paquebot qui ont une force d'inertie énorme, ils vont détruire Venise. Ils rentrent dans Venise et la détruisent. Mais là, ils ont décidé de ne plus les faire passer par le canal.
C'est tout récent, n'est-ce pas?
C'est tout récent. De les faire passer en dehors, sur la lagune. Mais là encore, est-ce que c'est une bonne, mauvaise idée? Ça veut dire, est-ce qu'il ne fallait pas stopper ce paquebot en dehors de Venise et stop? Parce que pour faire passer ce paquebot en dehors du canal, ils sont en train de construire un autre canal en dehors de la Giudecca. Et donc, ce canal, ça veut dire qu'ils vont creuser.
Côté lagune.
Oui, côté lagune, ils vont creuser. Et donc, ça va changer les marées, les courants. Et donc, est-ce que ça ne va pas abîmer encore un peu plus Venise et l'enfoncer encore un peu plus sous l'eau?
Alors pour finir, Francesco Rapazzini, vous qui êtes un natif de Lille, comment caractériseriez-vous les Giudecchini? Quel est le secret professionnel de la Giudecca? Est-ce que c'est les seuls Vénitiens qui travaillent?
Non, ce ne sont pas les seuls Vénitiens qui travaillent, mais c'est une fierté des Vénitiens et d'être des Giudecchini. C'est un peu des gens qui vivent sur une île dans une île. Et alors, on sait tous la mentalité des gens qui vivent dans une île. Et donc là, c'est doublement. Et c'est très amusant et c'est il y a alors le dialecte vénitien et il y a le dialecte de la Giudecca.
Donnez-moi un exemple de différence.
Mais il y a un mot très vulgaire qui dit tesboro, mais je ne vais pas le traduire.
Si.
Tesboro, c'est un intercalaire qu'on utilise. C'est entre, c'est un peu le merde de Venise, mais ça a à faire avec le sperme. Et les gens de la Giudecca disent tesbiro ou tesbiccio. Donc c'est vraiment jouer sur deux mots différents et faire en sorte que il y a un autre langage à la Giudecca par rapport à Venise.
Donc en somme, vous êtes des Vénitiens au carré.
Oui.
C'était Secret professionnel le 219e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel du dandysme. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Pierre Mine, recherche Ina Sophie Gillery. Dans un instant, Joël Gayot, une saison au théâtre.